Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés, c'est-à-dire dans sa mort, dans la mort du Christ, c'est-à-dire dans le Christ mourant. Nous avons donc été mis au tombeau avec lui par le baptême qui nous plonge en sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, c'est-à-dire par la puissance de Dieu manifestée glorieusement avec éclat, nous aussi, semblablement, nous marchions dans une vie nouvelle. Nous venons d'entendre ce texte dans l'épître de cette messe. Et la doctrine qui est sous-tendue par ce texte est tellement importante qu'il importe d'en dire un mot. C'est l'occasion de réfléchir sur l'importance et la grandeur du baptême. Le baptême nous incorpore à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'idée principale de ce passage de saint Paul. Et cette incorporation est double. Nous sommes incorporés à la mort de Jésus. En mourant, notre Seigneur a tué le péché, détruit le péché. Et donc, par le baptême, le péché est détruit. C'est une incorporation à la mort de Jésus, aux effets que cette mort a eus sur le péché. Et à sa résurrection, c'est-à-dire que par le baptême, une vie nouvelle nous est donnée, la vie surnaturelle. Saint Paul l'explique expressément, il le dit, c'est un petit peu plus loin dans le texte, si en effet nous sommes devenus un même être avec lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une semblable résurrection. Oui, nous devenons un même être avec lui. Le latin dit « complantati facti sumus ». Nous sommes complantés, c'est intraduisible, plantés avec. C'est l'image de la greffe qui est chère à saint Paul, que saint Paul emploie souvent. Étant plantés avec notre Seigneur, nous poussons avec lui. C'est sa grâce qui nous permet de pousser, de grandir surnaturellement. Cette vérité est d'ailleurs parfaitement exprimée par le mot baptême. Baptême, baptisé, ça veut dire plonger étymologiquement. Et cette vérité était explicitement symbolisée par l'ancien rite du baptême qui était par immersion. Le catéchumène était immergé totalement dans une cuve qui se trouvait au niveau du sol. Donc le catéchumène descendait des marches, était plongé à trois reprises dans l'eau baptismale et en même temps que le prêtre disait les paroles du baptême sur lui. Et ensuite, il remontait de l'autre côté du baptistère pour symboliser la vie nouvelle qu'il avait ainsi acquise, reçue. Donc, c'est vraiment comme une sépulture. Le catéchumène était plongé dans l'eau comme dans une sépulture et il ressortait vivant, régénéré. C'est une autre expression qu'on emploie pour désigner le baptême, une régénération, c'est-à-dire une nouvelle naissance. D'ailleurs, vous savez que le prénom René, qui est un prénom cher aux Angevins, puisque un grand évêque d'Angers s'appelait René, saint René. René, ça veut dire baptisé, ça veut dire régénéré. C'est celui qui a été ainsi recréé par l'eau du baptême. C'est une nouvelle naissance. Saint Paul lui-même, quand il parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, emploie le terme de naissance pour expliquer justement que la résurrection, c'est une naissance à une vie nouvelle, à la vie qui sera la nôtre après notre propre résurrection. Donc il y a une véritable incorporation au Christ par le baptême. Le baptême nous unit et nous configure spirituellement, mystiquement. Mais attention, quand on dit mystiquement, spirituellement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. C'est tout à fait réel. Nous sommes réellement configurés à la mort et à la résurrection de notre Seigneur pour en recevoir les fruits, comme si nous-mêmes nous avions subi la mort et la résurrection. Sauf que si nous-mêmes l'avions subi, les effets n'auraient pas été les mêmes, parce que nous ne sommes pas homme-dieu comme notre Seigneur l'est. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont les conséquences doctrinales de cette grande doctrine? Cela veut dire que par le baptême, par la grâce et le caractère du baptême, car vous savez que nous recevons non seulement la grâce sanctifiante au jour de notre baptême, c'est-à-dire une participation de la vie divine, mais nous recevons aussi un caractère, cette marque indélébile, tout à fait invisible, qui se trouve dans l'âme et qui fait que le baptisé est configuré non seulement à la sainteté divine, à l'être, à la nature divine, mais aussi à l'agir divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, cette configuration est réelle, elle est intrinsèque, nous sommes intrinsèquement justifiés, rendus justes, c'est-à-dire rendus saints, participant de la nature divine, de la sainteté et de l'agir divin de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très important de comprendre ça, parce que ça veut dire que entre le chrétien et l'homme qui n'est pas baptisé, d'une certaine manière, il y a plus de différence qu'entre un homme et un animal. Sans doute, l'homme baptisé et l'homme non baptisé sont de même nature, ils ont la même nature humaine, mais le don de la grâce est si grand, il nous conforme à la sainteté divine, que la différence, au fond, est quasi infinie, elle est très très grande. Saint Paul le dit d'ailleurs, nous venons de le lire, « Celui qui est mort est délivré du péché ». Le terme latin c'est « justificatus est », il est justifié, c'est-à-dire que la masse des péchés est détruite. Le péché originel et tous les péchés actuels, quand il s'agit du baptême d'un adulte, sont détruits, ils n'existent plus. Et par le baptême, le chrétien a le pouvoir de ne plus revenir au péché. Il peut rester saint, et normalement c'est ce qui devrait se passer. Nous ne devrions plus pécher après notre baptême. Nous devrions garder la grâce précieusement comme un trésor. La bonté du bon Dieu a fait que nous pouvons recouvrer la grâce si nous la perdons par le péché, grâce au sacrement de pénitence. Mais le baptême a en lui-même la puissance de nous rendre saints. Et d'ailleurs, vous le savez, quand un enfant meurt avant l'âge de raison, après son baptême, il va directement au ciel parce qu'il est saint. Il est ami du bon Dieu. Il n'y a en lui aucune tâche. Alors tout cela est important à redire parce que nous allons l'an prochain entendre parler sans doute d'innombrables fois de ce funeste anniversaire de la révolte de Luther de 1517. Vous savez qu'en 1517, Luther a placardé sur les portes de l'église de Wittenberg ses 95 thèses sur les indulgences qui ont été en quelque sorte la proclamation officielle de sa révolte. Encore que c'était que le début de cette révolte qui s'est beaucoup aggravée dans la suite, mais le principe doctrinal de la révolte luthérienne, il était déjà acquis. Depuis déjà quelques années, Luther professait une nouvelle doctrine sur la justification. Et c'est là qu'est le nœud du luthérianisme. Et vous savez qu'en 1999, il y a eu des accords luthéro-catholiques. On a prétendu désormais que la doctrine de la justification n'était plus un obstacle entre les luthériens et les catholiques. Qu'on avait trouvé une formule qui permettait un accord, formule tout à fait ambiguë, dans laquelle les catholiques ont tout perdu et les luthériens n'avaient pas grand-chose à perdre. Alors, quelle est la doctrine de Luther sur la justification? Est-ce que c'est la même que celle que nous venons d'exposer? Bien sûr que non. Elle tient en trois points. Pour Luther, nous ne sommes pas morts au péché. Nous restons pécheurs, même après le baptême, foncièrement pécheurs. La nature est totalement corrompue par le péché. Et la grâce ne rétablit pas la sainteté de l'homme. L'homme reste pécheur même après son baptême. Dieu est en quelque sorte impuissant à régénérer l'homme intrinsèquement, foncièrement. Nous gardons la concupiscence et pour Luther, la concupiscence, c'est le péché. Ce n'est pas une simple tendance au péché, ce n'est pas une simple blessure. Car nous savons qu'après le péché originel, même après notre baptême, nous gardons la blessure, nous gardons des blessures, la concupiscence notamment, qui nous porte à commettre des péchés. Mais la concupiscence n'est pas le péché, c'est une tendance. Les saints eux-mêmes avaient la concupiscence, mais ils n'étaient pas pécheurs. Alors que pour Luther, c'est le péché, et il n'y a pas de péché véniel pour Luther. Tout péché est un péché mortel. Donc l'homme est pécheur, foncièrement pécheur. Et il ne peut pas se guérir de son péché. Donc l'homme n'est pas justifié réellement, c'est le deuxième point. Il est simplement réputé juste, mais il ne l'est pas, il n'est pas saint. Il n'y a pas de saint pour Luther. Tous ceux que nous déclarons saints dans l'Église catholique ne sont pas saints, ils sont pécheurs comme tout le monde. La justification pour Luther est purement extrinsèque, c'est-à-dire c'est une imputation qui vient de l'extérieur. Nous sommes en quelque sorte couverts par les mérites du Christ, comme on est couvert par un manteau. Nous sommes revêtus des mérites du Christ, mais nous ne sommes pas transformés intérieurement. Nous restons fondamentalement pécheurs. Et cela se fait comment? C'est le troisième point, moyennant la foi, et la foi seule, sans les œuvres. Les œuvres sont totalement inutiles, puisque nous sommes pécheurs, foncièrement pécheurs. Il n'y a pas besoin d'œuvres. Les œuvres, au contraire, pour Luther, sont impies. Il n'y a pas de bonnes œuvres. Alors, c'est la foi qui nous sauve. En réalité, Luther dira que c'est Dieu. Mais Dieu fait connaître qu'il nous a sauvés en nous donnant la foi, en nous donnant une confiance, une conviction intime que nous sommes sauvés, que nous avons été sauvés par sa miséricorde. C'est une foi qui n'a rien à voir avec la foi catholique. C'est une confiance, un espèce de pari qui n'est pas fondé objectivement, qui n'est pas fondé réellement. Luther prétend que tout cela vient de Dieu, mais en fait, ça n'est que l'indice, une conviction intime qu'on se donne à soi-même que malgré notre péché, nous sommes prédestinés et sauvés gratuitement par Dieu. D'où l'adage de Luther, pêche fortement, on peut pécher autant qu'on veut, ça ne changera rien, de toute manière, nous sommes pécheurs, mais crois plus fortement encore et tu seras sauvé. Au fond, vous voyez que c'est le règne du subjectivisme. Chacun, finalement, détermine lui-même s'il est sauvé ou non. On attribue tout ça à Dieu, mais Dieu, dans tout cela, finalement, est bien absent. Et c'est là qu'on voit que le luthérianisme, qui est très pessimiste et qui prétend accorder à Dieu une toute puissance absolue, au fond, rejoint parfaitement le pélagianisme et toutes les doctrines naturalistes qui n'accordent d'efficacité qu'à l'homme. Dans la pratique, c'est exactement la même chose. Chacun fait ce qu'il veut. C'est le règne du subjectivisme. Vous voyez que cette doctrine est à la fois impie, puisqu'elle déclare finalement que Dieu est impuissant à nous sauver vraiment. Le salut est purement extrinsèque. C'est une couverture. C'est un cache-misère. Et puis, cette doctrine est désespérante, parce que l'homme est irrémédiablement pécheur. Il est pourriture, même après son baptême. Il est incapable de faire le bien, incapable de poser des bonnes œuvres. Il n'y a pas d'œuvre sainte. Toutes les bonnes œuvres sont inutiles, stériles. Alors, on est très loin de la doctrine de saint Paul. Et pourtant, c'est dans son commentaire de l'Épître aux Romains que Luther a cru, a pensé trouver toutes ces choses. En fait, il n'a fait que utiliser le texte de saint Paul comme un prétexte pour énoncer sa doctrine, qui était sa propre doctrine à lui, qui n'était que le résultat finalement de ses angoisses personnelles. Les conséquences spirituelles de cette grande doctrine de la justification catholique sont magnifiques et ce sont des conséquences considérables. Nous possédons par le baptême un véritable trésor. Nous sommes consortes naturae divinae, comme dit saint Paul, participant de la nature divine. C'est saint Pierre, pardon, qui dit ça. Nous possédons la grâce sanctifiante par laquelle Dieu efface le péché et rend l'âme sainte, juste, amie de Dieu. Et avec la grâce, vous le savez, il y a tout le cortège de la grâce. C'est un véritable trésor, toutes les vertus infuses, les dons du Saint-Esprit. Et puis Dieu lui-même, Dieu habite dans l'âme en état de grâce. Il faut prendre la mesure de ce don. C'est un don vraiment extraordinaire. Et cette grâce est au principe de la sainteté. C'est le prélude de la vie du ciel. Un enfant baptisé a en lui tout ce qu'il faut pour devenir un saint. La sainteté, c'est la voie normale. Nous devrions tous être des saints. C'est la voie commune. C'est une grave erreur de penser que la sainteté est réservée à une petite élite de parfaits, comme le disaient les cathares. C'est pas vrai. Nous devrions tous être des saints. Parce que tous, nous avons en nous la grâce, si nous sommes en état de grâce, et cette grâce est extrêmement puissante, infiniment puissante, elle est divine. Néanmoins, il y a des conditions, évidemment. Quelles sont ces conditions? La première, c'est qu'il faut garder la grâce, il faut garder l'état de grâce, sans quoi nous redevenons morts, des morts, c'est ce que saint Paul nous enseigne. Et si nous sommes morts, si nous n'avons plus la grâce, nous ne pouvons plus produire de bonnes œuvres. Et puis ensuite, il faut entretenir cette grâce. C'est un germe, c'est cette petite graine qui est mise dans l'âme et qui est appelée à devenir un grand arbre, ce petit grain de sénevé. Il faut l'entretenir par une vraie vie chrétienne. Saint Paul le dit lui-même, il faut marcher dans une vie nouvelle. Marcher, ça nous indique tout le progrès qui est requis dans la vie chrétienne. Une vie chrétienne qui ne progresse pas, qui stagne, est une vie qui tôt ou tard va mourir, va retourner au péché, inévitablement. Donc il faut produire des fruits de grâce. Et c'est ça les œuvres, ces œuvres que Luther haït, ces œuvres, eh bien, c'est au contraire tout ce qui nous est commandé par notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce que saint Paul lui-même nous recommande. Pour terminer, permettez-moi de vous lire un tout petit extrait d'une très belle homélie de saint Léon le Grand. Nous lisons ce texte chaque année dans la nuit de Noël. C'est un texte magnifique qui nous rappelle justement cette grande doctrine du baptême, de la grâce, de tout ce grand bonheur que nous avons d'être chrétiens, d'être vraiment chrétiens. Voici ce que dit saint Léon le Grand. Il s'adresse aux fidèles. « Mes bien-aimés, rendons grâce à Dieu le Père par son Fils dans l'Esprit Saint, à lui qui, poussé par l'immense miséricorde dont il nous a aimés, a eu pitié de nous. Et comme nous étions morts dans nos péchés, il nous a rendu la vie dans le Christ, pour que nous soyons en lui une nouvelle création, une nouvelle œuvre de ses mains, une recréation. Dépouillons-nous donc du vieil homme et de ses agissements, puisque nous sommes admis à participer à la lignée du Christ, renonçons aux œuvres de la chair. Prends conscience, chrétien, de ta dignité et tu es devenu l'associé de la nature divine. » Mais notre vraie dignité, c'est celle-là. Ce n'est pas la liberté qui nous donne la dignité, comme on le prétend aujourd'hui, la dignité de l'homme. La vraie dignité, c'est la dignité que nous donne la grâce, la vie chrétienne. « Ne retourne pas par un revirement indigne de ta race à ta première bassesse. Rappelle-toi quel est ton chef et de quel corps tu es membre. Souviens-toi qu'arraché à la puissance des ténèbres, tu as été transporté dans la lumière du royaume de Dieu. Le sacrement de baptême a fait de toi le temple du Saint-Esprit. Ne mets pas en fuite par une conduite dépravée un tel hôte. Ne reviens pas sous la férule du démon, car ta rançon, c'est le sang du Christ. » S'il t'a racheté par un effet de sa miséricorde, c'est selon sa justice qu'il te jugera, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et le cardinal Pie, je termine là-dessus, avait une petite phrase très forte pour encourager les chrétiens à retrouver le sens de leur baptême. La terre est désolée, disait-il, d'une grande désolation, parce qu'il n'y a bientôt plus de baptisés qui se souviennent, comme il le doit, de son baptême, qui est la conscience des grandeurs et des énergies de son baptême. Rendez donc, mes frères, rendez à votre âme toute la vie, toute l'expansion, tout l'épanouissement de votre baptême. Ben, c'est la grâce que nous demanderons, tout spécialement à la Vierge Marie, qu'elle fasse de nous de vrais chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.